Soyez bienvenus, nous sommes heureux de vous retrouver pour cette rentrée d'international. Le principe n'en a pas changé. Trois grands médias francophones qui convient chaque semaine une personnalité internationale. Et aujourd'hui, c'est Pierre Moscovici que nous recevons. Monsieur le ministre ou monsieur le commissaire, heureux de vous accueillir. On vous avait quitté. Vous étiez ministre de l'économie et des finances du gouvernement français, Jean-Marc Ayrault. Mais ça, c'était avant, puisque désormais, vous êtes commissaire. Vous allez être commissaire. Vous allez nous dire peut-être quelles sont vos fonctions. Nous parlerons également de l'actualité politique française qui a été très chargée cette semaine. Entretien que nous allons conduire avec Sophie Malibaud de Radio France Internationale et Philippe Ricard, du quotidien francophone de référence et bien sûr du Monde. On n'a pas changé le casting de tour de table pour cette émission. Beaucoup de questions, je vous le disais, sur l'Europe. Peut-être tout d'abord par rapport à ce que j'indiquais la semaine assez terrible pour François Hollande et pour le gouvernement français. Vous allez partir à Bruxelles. Est-ce que quand vous rasez, vous dites finalement je serais mieux à Bruxelles qu'à Paris dans cette situation extrêmement complexe, extrêmement difficile?
Non, je pense que être commissaire européen, c'est servir mon pays autrement. C'est passer aussi à un stade différent, parce que on reste français. Je serai français toujours. On garde ses convictions. Je suis socialiste, je le demeurerai. Mais on porte ça à l'échelle de l'intérêt général européen. On doit voir les choses d'un autre point de vue. Ce sera mon cas. Je garde des amis politiques dans mon pays. Je me sens concerné, je me sens impliqué, mais j'aurai un devoir de réserve lié à une forme d'indépendance qui est celle de la Commission européenne. Mais je me dis pas que j'ai de la chance ou pas de chance. J'ai adoré être ministre de l'économie et des finances. Ça a été une fonction très importante dans un moment compliqué. La crise, le retour de la gauche au pouvoir, après 10 ans dans l'opposition, le lancement d'une nouvelle politique. Et j'ai souhaité, avec François Hollande, devenir commissaire européen. Mais nous en avions parlé en réalité avant ce remaniement, bien avant ce remaniement. Pour moi, c'est un projet de vie. C'est le prolongement de mon action publique qui a toujours été à l'interface entre la France et l'Europe. J'ai été ministre des Affaires européennes, député européen, vice-président du Parlement européen, comme ministre des Finances, je me suis bien sûr beaucoup impliqué dans les affaires européennes. Et là, je serai à l'interface, mais de l'autre côté.
Alors, effectivement, on a beaucoup de questions à vous poser sur la nature de ce portefeuille. Peut-être encore, pour rester dans la politique française, est-ce que vous n'avez pas un regret, au fond, de partir au moment où la ligne politique que vous incarnez, que vous représentez, une forme de social-démocratie, est très assumée par ce gouvernement? C'est pas le bon moment pour partir?
Justement pas. Il y a un an, j'ai écrit un livre qui s'appelait Combat, ouais. Qui était une sorte de manifeste de la social-démocratie. Et j'avais évoqué cette conversion social-démocrate nécessaire. J'avais parlé de la compétitivité comme une exigence. J'avais parlé aussi de la nécessité de réformer l'organisation territoriale en France, de réduire la dépense publique. Souvenez-vous, j'avais été le premier à évoquer le ras-le-bol fiscal. Pourquoi?
Parce que j'avais... Ça vous a évolué des ennuis, d'ailleurs. Enfin, des critiques.
Mais honnêtement, aujourd'hui, tout le monde convient que à un certain niveau, quand il y a beaucoup d'impôts, les rendements sont faibles, l'injustice est perçue, que c'est insupportable. C'est du côté des dépenses publiques qu'il fallait faire l'effort. Donc, il y a un cap qui a été pris depuis. Le président de la République l'a donné, c'était lors de sa conférence de presse du mois de janvier. Il y a une continuité dans l'action. Moi, je me sens tout à fait poursuivi, en quelque sorte, dans cette action par ceux qui sont maintenant aux responsabilités.
Donc, il y a une chose que nous savons. Vous êtes commissaire européen. Mes collègues, mes excellents collègues, veulent peut-être en savoir davantage sur la nature de ce poste.
Votre portefeuille, vous pouvez confirmer déjà et... Puisqu'on faisait référence à la situation politique assez délicate en France, est-ce que vous ne pensez pas que ça risque d'affaiblir beaucoup le commissaire français, quel que soit son poste finalement?
Alors deux choses. D'abord, je ne peux rien confirmer parce que je pense qu'il faut respecter des formes.
On parle d'être commissaire aux affaires économiques et monétaires.
Les formes, c'est que c'est le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker, qui forme, comme on dit, le collège.
Le gouvernement, hein, son collège.
Oui, c'est une sorte de gouvernement de l'Europe, on en reparlera peut-être.
Donc vous ne pouvez pas confirmer aujourd'hui la nature.
J'ai rencontré Jean-Claude Juncker jeudi, il m'a fait part des fonctions qu'il souhaitait me confier. Il m'a aussi naturellement dit que c'était à lui d'annoncer les choses. Je pense que ce sera fait dans la semaine, peut-être mercredi, c'est la date que j'ai entendue. Et à partir de ce moment-là, la nouvelle commission se mettra tout de suite au travail. C'est pas simple. Il faut d'abord qu'elle définisse ses propres méthodes de travail. Il y a une autre étape qui est très importante, c'est de passer par les auditions du Parlement européen. Le Parlement européen qui est une institution très forte, qu'il faut respecter, qu'il faut convaincre. Et moi, je m'y emploierai avec beaucoup d'énergie pour ma part et avec beaucoup de respect pour ce Parlement. Et c'est à Jean-Claude Juncker de donner l'ensemble. Il y a simplement deux choses que je peux dire. La première, c'est sur la France. La France est un grand pays européen. La France est la deuxième économie de la zone euro. La France est la cinquième économie du monde. Bien sûr, il y a des difficultés en France. Évidemment, il y a des réformes à conduire. Évidemment, il y a une situation politique. Mais non, ça n'affaiblit pas la France. Parce que la France est nécessaire à l'Europe, comme l'Europe est nécessaire à la France. Et le commissaire français je peux le dire maintenant, occupera une responsabilité importante dans cette prochaine commission. C'est attendu par nos partenaires, et c'est fondamental qu'il en soit ainsi. La deuxième chose, c'est que c'est Jean-Claude Juncker qui annoncera les fonctions qu'il me confie, mais rien n'est interdit à un Français, rien. Parce que, par définition, d'abord, quand on devient commissaire, encore une fois, on se porte à l'échelle de l'intérêt général européen. Demain, commissaire européen, je ne serai pas l'ambassadeur d'un pays, je ne serai pas l'ambassadeur d'un parti. J'agirai au nom de règles européennes. Bien sûr, je le ferai avec ma sensibilité. Je ne vais pas, encore une fois, abdiquer ce que je suis. Mais c'est différent. Et puis, la deuxième chose, c'est parce qu'encore une fois, la France n'a rien qui doive lui apparaître comme un interdit. Par exemple, en matière de finances publiques, la France n'a jamais déroger aux règles. Jamais. Elle a toujours respecté les règles. Et, à ma connaissance, le gouvernement français ne demande pas de les changer.
Comment avez-vous perçu, quand même, le quasi-veto des Allemands en juillet par rapport au poste de commissaire économique et monétaire ? C'était pas très aimable de leur part. Quelle leçon vous en tirez ?
J'ai toujours dit qu'il n'était pas possible qu'il y ait une forme de veto pour des raisons de fond et de forme. La raison de forme, elle est très importante, c'est que c'est le président de la Commission européenne qui forme le collège. Et les raisons de fond, c'est que l'amitié franco-allemande qui est centrale, qui est essentielle, interdit précisément qu'on fasse cette forme de veto l'un par rapport à l'autre. D'ailleurs, du coup, il n'y a pas eu de veto. Il y a eu des discussions, il y a eu des dialogues. Je ne peux pas dire que c'était toujours très facile, mais non, ça n'était pas possible. Et au final, on se comprend.
Sophie Malibo.
Quand vous êtes sorti du gouvernement et que vous étiez déjà positionné comme futur commissaire européen, vous aviez dit que c'était une sortie par le haut. Est-ce que cela signifie qu'en fait, tout se décide à Bruxelles ?
Non, ça signifie simplement que c'est une responsabilité majeure. La Commission européenne, c'est un acteur du changement. Vous savez, il y a eu des élections européennes il y a quelques mois. Le message a été dramatique. Quand on regarde, y compris la situation française et la montée du Front National, qu'est-ce que ça nous dit tout ça ? Ça nous dit que l'Europe telle qu'elle est perçue davantage comme une contrainte, comme une punition, comme un problème, que comme une solution et un espoir. Et c'est dans la Commission européenne, la future Commission européenne, que réside la possibilité d'un nouvel espoir, la possibilité d'une construction qui soit à nouveau perçue comme un projet.
Qui et a ça plus passe, de pouvoir
aujourd'hui. Et ça passe par une chose, ça passe par la priorité absolue qui doit être donnée à la croissance et à l'emploi. Si pendant 5 ans, on reste dans ce qu'on appelle le business as usual, si on continue, en d'autres termes en français, exactement sans rien changer, alors à ce moment-là, il ne faut pas s'étonner si à la fin, il y a du rejet. Donc la Commission européenne, c'est l'acteur du changement en Europe,
alors.
C'est le vecteur de l'intérêt général, c'est elle qui fait les propositions, c'est elle qui ensuite exécute et administre l'Europe. Oui, c'est sans doute l'institution centrale, pilier, telle qu'elle a été voulue par les pères fondateurs, à commencer par Jean-Pierre.
Alors, Pierre Moscovici, on parlera de tout cela, mais justement, pour comprendre ce qu'est la Commission européenne, quel sera le rôle d'un commissaire et peut-être les premiers signes de cette Commission Juncker, petit rappel, petit encadré sur le fonctionnement de cette Commission.
On entend peu parler d'eux et pourtant, ils décident des grandes orientations politiques de l'Europe. Souvent mal perçus, à l'image de la Commission Barroso et ses réformes impopulaires, les commissaires européens sont assez symptomatiques de la crise de confiance des citoyens vis-à-vis de l'Union européenne. Mais quel est réellement le pouvoir de ces super ministres ? Alors que Jean-Claude Juncker est en train de composer la nouvelle Commission, quelles vont être ses priorités ? Va-t-il réussir à incarner le changement attendu par beaucoup ? La Commission européenne, c'est donc un peu le gouvernement de l'Europe. Et le commissaire est une sorte de ministre pour 5 ans. Il a un portefeuille et une administration. Toutes les semaines, le collège de commissaires se réunit à Bruxelles. Là, tous ensemble, ils proposent des lois qui sont soumises au Parlement et au Conseil. Ils gèrent aussi le budget de l'Union et veillent à faire respecter les politiques européennes. D'abord proposé par le gouvernement de chaque pays, c'est le président de la Commission, Juncker en l'occurrence, qui attribue les postes avec l'aval du Conseil. La liste des 28 est ensuite approuvée par le Parlement. Ce sera en octobre. Et de vastes chantiers attendent la future Commission. Mettre en place une politique énergétique européenne et aussi négocier un traité de libre-échange équilibré avec les États-Unis. Jean-Claude Juncker le garantit.
L'accord ne sera pas conclu à n'importe quel prix.
Mais son cheval de bataille, ce sera la croissance.
La crise n'est pas terminée tant qu'il y a 25 000 hommes et femmes qui sont au chômage. La crise est terminée lorsque le plein emploi aura été restauré.
D'où un ambitieux plan de relance, 300 milliards d'euros en 3 ans pour encourager les investissements publics et privés. Le pari est risqué car il s'agit de réduire la dette en puisant dans des fonds déjà existants. Juncker, qui connaît bien les rouages bruxellois, va donc devoir réaliser un numéro d'équilibriste. Car si son plan de relance redonne espoir aux sociaux-démocrates et fait le jeu de François Hollande et Matteo Renzi, l'ombre de Berlin et sa politique d'austérité planent toujours. En filigrane donc, la question est de savoir si cette commission va renouer avec ses citoyens et se libérer de la pression des lobbies et des chefs d'État. À en croire son président, oui.
La commission sera politique. Je la veux plus politique. Elle sera très politique.
Ça vous voit bien, ça? Il y a une image un peu techno habituellement donnée à cette commission. Là, il veut une commission politique. Vous vous sentez bien dans ce projet?
Regardez comment elle est composée, parce que maintenant, on en connaît la composition.
Ouais.
Je crois que pratiquement tous les membres ont occupé des responsabilités dans leur gouvernement. Certains ont occupé des responsabilités importantes. Mm-hmm. Il y a même, je crois, 4 ou 5 anciens premiers ministres, à commencer par le président de la commission lui-même, Jean-Claude Juncker.
Qui était très longtemps, plus de 20 ans.
C'est-à-dire que le profil qui a été choisi, c'est pas des bureaucrates, c'est pas des technocrates. Ce sont des hommes et des femmes qui connaissent la politique. Et ça me paraît important, parce que, encore une fois, l'objectif central, c'est bien celui que dit Jean-Claude Juncker, c'est la relance de la croissance, mm-hmm. Par l'investissement. C'est fondamental parce qu'au fond, nous souffrons en Europe. Je mène actuellement une mission de parlementaire qui m'a amené un peu partout, qui va continuer d'ailleurs à m'amener un peu partout. J'irai à Varsovie dans quelques jours, après avoir été à Prague, à Berlin, à Madrid, à Londres, dans toutes les grandes capitales européennes. Eh bien, ce que je constate, c'est que partout, il y a ce déficit d'investissement. Si les économies européennes sont aujourd'hui trop peu compétitives, si elles sont à l'arrêt en termes de croissance, c'est parce qu'on manque d'investissement. D'où l'initiative et l'intuition du plan d'investissement de 300 milliards d'euros sur 3 ans. Je dirais presque, d'une certaine façon, c'est un minimum. Mais faire ce plan n'est pas déséquilibrer les finances publiques européennes. Il n'y a pas, pour moi, de contradiction entre investir et être sérieux sur le plan budgétaire. Il s'agit de mobiliser une épargne qui est abondante, qui existe, et de la drainer vers l'investissement. Et pour ça, nous avons des outils. J'en mentionnerai un, la Banque Européenne d'Investissement, notre banque. C'est une banque qui doit servir à...
Elle prête à 0% pratiquement
elle
maintenant.
Elle prête à 0% et elle permet aussi de développer des investissements sur les territoires. Quand j'étais ministre de l'Économie des Finances, j'ai signé une convention avec la BEI et la Caisse des dépôts et consignations pour des financements d'infrastructures. Une autre convention avec la BEI et ce qu'on appelle la Banque Publique d'Investissement pour des financements de PME. J'ai été avec le vice président de la BEI, monsieur de Fontainevive. J'étais à Lille pour lancer le plan campus avec Geneviève Fiorazzo. Et avec Marisol Touraine, nous étions aussi avec monsieur de Fontainevive pour lancer le plan hôpital. Si vous voulez, tout ça, ce sont des investissements qu'il faut déployer sur le terrain. Et si j'ai mentionné ces 4 exemples, c'est parce que ça doit être à la fois de l'investissement public et de l'investissement privé. Et il faut bien comprendre que 1 euro mis par la Banque Européenne d'Investissement peut générer 10 euros d'investissement public ou privé qui soit d'origine nationale. Et ça, cet effort, on doit le faire, parce que l'enjeu, c'est que l'économie européenne élève, je veux pas être technique, son potentiel de croissance. C'est-à-dire que la croissance européenne repart de l'avant. Elle est aujourd'hui beaucoup trop faible par rapport aux autres grandes économies développées.
Sophie Médibo.
Quand François Hollande est arrivé aux affaires, et vous avec, à ce moment-là, vous parliez de relance, de la croissance par la relance. Doper la demande par la demande intérieure. Est-ce que ça, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on ne mise plus sur la relance par la demande?
D'abord, je voudrais rappeler quand même que on nous dit ça pour nous dire vous avez déjà fait ces propositions, elles ne sont pas entrées en vigueur. C'est pas exact. Quand je suis arrivé au ministère des Finances, je m'en souviens très bien, la situation de la zone euro était dramatique. La question qu'on se posait, c'était est-ce que la Grèce va rester? Est-ce que l'euro va survivre? Est-ce que nous aurons encore cette monnaie commune entre nous? Et depuis 2 ans, on a comme stabilisé les choses considérablement. La Grèce est dans la zone euro. J'étais en Grèce il y a une semaine. Et elle est même en train maintenant d'envisager d'aller vers la sortie de son programme, comme on dit. Nous avons aussi construit l'union bancaire, qui est un sujet fondamental, qui permet de s'assurer la stabilité du système financier. On a mis en place des outils. On a augmenté le capital de la Banque Européenne d'Investissement. On a créé ce qu'on appelle les project bonds, des obligations de projet qui permettent justement de financer des projets. Ça marche pas encore comme ça devrait. Ça aussi, on peut sans doute améliorer les choses, améliorer le fonctionnement. Et donc, il y a eu des choses de fait. En même temps, on sent bien que ça a été insuffisant. Et encore une fois, c'est le message pour moi des élections européennes. Si on n'est pas capable d'être beaucoup plus ambitieux, d'être beaucoup plus volontaire, d'être beaucoup plus favorable à la croissance et à l'emploi, alors à ce moment-là, les citoyens se détourneront encore davantage du projet européen qui est pourtant leur seule voie pour peser dans le monde, la seule voie pour que nos pays comptent encore à l'ère de la mondialisation. Et donc c'est fondamental qu'il en soit ainsi, essentiel, vital. Et c'est ce que nous allons faire. Et ça, c'est encore de la relance par la demande. Parce que l'investissement a une caractéristique en économie, c'est que, c'est ça qui est très intéressant, c'est à la fois une composante de la demande, dans les théories dites keynésiennes à l'époque, de Keynes, c'est la consommation et l'investissement qui sont la demande, et c'est aussi une composante de l'offre. Parce que quand on investit, on consolide l'appareil productif, on renforce l'industrie. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle il faut aussi qu'il y ait une politique industrielle européenne, comme en France.
Ce plan de 300 milliards, effectivement, 300 milliards d'euros qu'avait annoncé M. Juncker au moment de sa nomination, qu'en est-il vraiment? Ça semble pas être de l'argent nouveau, disons. C'est plus de la redistribution d'argent qui est déjà budgété, etc. Qu'est-ce que ça va apporter réellement? Qu'est-ce qui va piloter ce plan, d'ailleurs? C'est vous?
C'est pas comme ça que je vois les choses. Ce que je crois, c'est qu'encore une fois, c'est de l'épargne qui est disponible. C'est de l'argent qui existe. C'est pas de l'argent créé ex nihilo, c'est pas de la poule de palin-pimpin.
C'est pas de l'argent venant du budget communautaire, déjà?
Non. Ça va pas être ça. Le budget communautaire, il a été voté pour 7 ans. Alors on peut aussi créer des mécanismes qui permettent d'appuyer davantage la Banque européenne d'investissement. Ça fait partie des possibilités. Je veux pas du tout être technique. Mais non, l'idée, c'est de faire en sorte que l'épargne, qui existe déjà, mais qui est aujourd'hui en quelque sorte gelée, qui reste dans les madeleines, qui reste mise dans les banques aussi, soit mise en circulation, elle soit activée, elle soit orientée vers l'investissement. Et pour ça, nous avons encore une fois des outils. Et ces outils, c'est aussi bien l'union bancaire, qui doit quand même permettre au système bancaire d'être rassuré et de pouvoir être plus volontaire. Enfin, qui d'entre nous ne connaît pas des entrepreneurs plus ou moins grands qui se plaignent, qui n'aient pas assez de prise de risque? La prise de risque, c'est fondamental. Il faut que les banques prennent plus de risques. Il faut que la Banque européenne d'investissement, avec, c'est de l'argent public, il faut faire attention, soit à même de prendre plus de risques, peut-être, et des risques garantis. Et c'est comme ça qu'on parviendra. Il n'y a aucun problème. L'argent est là à mettre sur la table ces 300 milliards d'euros d'investissement, sans pour autant dégrader la situation de nos finances publiques, parce que le désendettement reste un objectif. Vous savez, sur le désendettement,
La nouvelle crainte, les experts aujourd'hui agitent le chiffon rouge de la déflation. C'est d'ailleurs ce qui contraint, en France, mais dans le reste de l'Europe également. Est-ce que ça, aujourd'hui, c'est un véritable risque, un nouveau risque de crise profonde pour l'Europe?
Il y a, c'est vrai, une inflation qui aujourd'hui est terriblement faible, et quand l'inflation est très faible, ça appauvrit un certain nombre d'agents économiques, et ça aussi limite l'efficacité de certaines politiques publiques. Prenez le cas, par exemple, du gel d'un certain nombre d'indices. Par définition, quand il n'y a pas d'inflation, le gel ne rapporte rien en termes de finances publiques. Et donc, ça compromet le désendettement, ça le rend plus compliqué. Et il n'y a pas de croissance sans désendettement. Il n'y a pas de désendettement sans croissance. C'est pour ça qu'il faut que ce plan d'investissement soit un plan qui permette de doper la croissance et l'emploi. Et ce faisant, améliorer aussi les rentrées, permettre le désendettement. Et pour le reste, sur l'inflation, je crois que la Banque Centrale Européenne est maintenant très consciente du danger. Au fond, c'est elle qui a la responsabilité de la stabilité des prix. Et elle peut agir quand les prix deviennent trop élevés, c'est la lutte contre l'inflation. Elle peut aussi agir quand elle a le sentiment que l'inflation menace l'économie. Et c'est peut-être une des raisons, un des déterminants de ce que Mario Draghi fait. Mario Draghi est un homme pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Je trouve que c'est un homme qui est en train de changer le profil de la Banque Centrale Européenne, de l'élargir, et qui, par sa parole, comme par ses actes, donne les bons signaux. Alors après, on peut toujours discuter.
Il devrait en faire plus aujourd'hui?
Il vient d'en faire pas mal. Mais je crois qu'il va dans le bon sens, et que ça, y compris maintenant, un effet certain sur un autre paramètre qui est très important pour les entreprises, notamment industrielles, qui est le taux de change. Le change euro-dollar qui commence à se rapprocher de données qui sont plus normales, qui correspondent davantage à l'état réel des économies, à ce qu'on appelle les parités de pouvoir d'achat.
Nous allons faire un point d'information dans un instant, mais rappelons, au moment où vous arrivez à Bruxelles, 25 millions de chômeurs dans l'Europe, et peut-être une perte de rêve de cette Europe. Nous avons l'âge, enfin vous avez l'âge du traité de Rome, de cette naissance de l'Europe. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit à ces jeunes pour qu'ils aillent voter, pour qu'ils se sentent européens, pour qu'il y ait un souffle à nouveau?
Mais
renchanté de réel.
Avant de leur dire quelque chose, de leur raconter des histoires, il faut qu'il y ait des choses concrètes. Le chômage des jeunes est une perspective insupportable. Je le disais, il y a 8 jours, 10 jours, j'étais en Grèce. Ouais. J'ai rencontré le Premier ministre, Monsieur Samaras, qui se bat pour son pays. Et quand vous avez un chômage des jeunes qui est à 60% dans ce genre de pays, quand vous avez 70% des chômeurs qui sont des chômeurs de longue durée, de plus d'un an, c'est insupportable. Et c'est la raison pour laquelle la croissance et l'emploi, c'est pas une option, c'est une nécessité vitale.
Un devoir.
Et il faut savoir une chose, c'est que si nous ne sommes pas capables, il y a une course de vitesse, si nous ne sommes pas capables de traiter ce genre de problème et d'offrir une perspective à nos jeunes, ce sont nos démocraties qui sont en péril. Comment voulez-vous